Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Le commentaire de
Luc la Liberté, une vision américaine, pas comme les autres.
Salut Luc.
Allô Geneviève.
Bon, on va se parler d'une mise en situation quand le Parti républicain met de côté la Constitution américaine. On dirait que ça va pas ensemble.
Écoute, il y a...
Ils sont très attachés à leur Constitution.
Écoute, je pense que ça peut être intéressant pour nos auditeurs à, oui, plus d'un titre, mais aux États-Unis, souvent, hein, c'est pas long même de notre côté de la frontière qu'on s'emballe un peu quand on jase politique, puis là, tout de suite, on est identifié pro-démocrate, pro-républicain. Moi, ce qui m'amuse beaucoup là-dedans, c'est toujours de ramener ce que je vois, ce que j'entends, ce que je lis, à ce que je connais de l'histoire américaine, qui est mon domaine de prédilection, mais à ce que je connais aussi de la Constitution, de la séparation des pouvoirs, mais du respect du texte fondateur qu'on a un peu modifié, auquel on a ajouté des amendements après. Et dans les dernières années, ça devient très, très difficile de nier que quand on parle d'attaque contre la démocratie ou les institutions américaines, contre le droit de vote, ben ça provient plus souvent du camp républicain que du camp démocrate. Les démocrates sont pas blancs comme neige là-dedans, mais les assauts, j'ai envie de te dire, presque, oui, dans certains cas, proviennent des républicains. Pour nos auditeurs, avant d'en venir au sujet principal, là, ils ont lu dans les dernières semaines qu'il y a des États qui tentent de limiter l'exercice du droit de vote, puis on vise surtout là-dedans, étrangement, des catégories d'électeurs qui votent démocrates habituellement. Puis encore aujourd'hui, on apprenait de nouveaux détails sur à quel point Donald Trump a tenté de mettre à sa main le département de justice aux États-Unis, oui, donc le ministère de la justice, si tu veux. Donc, tout ça pour dire, on n'en est pas à une première attaque ou à une première anomalie. Et là, hier, en entrevue, Mitch McConnell a ramené sur le tapis une stratégie qu'il a déjà utilisée une fois, mais qui contrevient à la Constitution américaine. Dans la dernière année du règne de Barack Obama, donc dernière année, Obama ne peut pas se représenter, mais il a toujours les pleins pouvoirs. Il dit, ben, il y a le décès du juge Antonin Scalia. Il dit, moi, j'ai choisi Merrick Garland, qui paradoxalement est devenu maintenant le nouveau procureur général des États-Unis sous Joe Biden. Oui. Mais il dit, moi, j'ai choisi Merrick Garland pour remplacer Antonin Scalia, ce à quoi les sénateurs républicains disent non, puis on veut pas l'entendre. Et Mitch McConnell a même dit, écoutez, et là, il invente une règle quand il fait ça, moi, en année électorale, il n'est pas question qu'on se prononce sur un candidat, laissons les électeurs parler d'abord, puis ensuite, on verra. Donc, il voulait, bien entendu, repousser ce vote-là, qui est très important, parce que la Cour suprême, c'est un des legs ou des héritages les plus importants qu'un président puisse laisser. Alors, on a carrément refusé de se soumettre à la Constitution américaine en acceptant, ne serait-ce que de recevoir au Sénat, le candidat de Barack Obama. On connaît la suite pendant les 4 années du règne de Donald Trump, et ça, c'est immense comme héritage. M. Trump a pu nommer 3 juges. On se rappelle les juges Gorsuch, Kavanaugh, puis Amy Coney Barrett. On arrive donc maintenant à la présidence Biden, puis il y a un juge progressiste, Stephen Breyer, qui a 82 ans. Et on exerce sur lui de grandes pressions pour qu'il quitte avant la fin du mandat de Joe Biden pour laisser à un président démocrate le choix de le remplacer par un autre progressiste. En gros, prenons pas de chance. Prenez pas votre retraite plus tard, sachant que ça peut être les républicains qui prennent le pouvoir. M. Breyer a dit, moi, je fais pas de politique, je suis juge de la Cour suprême, je suis pas prêt à partir maintenant. Mais quand on a interrogé Mitch McConnell là-dessus, on a dit, est-ce que vous laisseriez le président Biden, est-ce que vous allez accepter, si M. Breyer part, de se prononcer sur une candidature? Et là, il a ramené 2 éléments de réponse. Un, je suis pas sûr, faudrait voir. Et 2, si ça arrive dans la dernière année du mandat, moi, je maintiens, c'est une promesse que je fais, il n'est pas question qu'on entende un candidat dans la dernière année d'un mandat présidentiel. Là où ça relève de l'hypocrisie crasse puis de la malhonnêteté crasse,
oui,
j'ai écrit un billet là-dessus d'ailleurs ce matin. Dans la dernière année de son mandat, Donald Trump a nommé une juge à la Cour suprême qui est très conservatrice, qui est Amy Coney Barrett.
Oui, en remplacement d'une juge qui, elle, a fait avancer beaucoup de dossiers, là, qui n'étaient pas nécessairement, justement, conservatrice, vraiment pas loin de là.
Non, puis tu vois, ça permettait d'ailleurs à Donald Trump, quand je dis que c'est un héritage majeur, là, sur les 9 juges de la Cour suprême, oh, il y en a 6 qui sont beaucoup plus conservateurs. Pour les républicains, puis pour les électeurs républicains, ben c'est une bonne nouvelle. Mais il reste qu'on en a profité et qu'on a contrevenu à la règle inventée par Mitch McConnell. On ne l'a pas appliquée à Donald Trump. Sous Donald Trump, on pouvait nommer un juge à la Cour suprême dans la dernière année d'un mandat, pas pour Barack Obama, puis pas encore pour Joe Biden. Et c'est là où je dis, oublions un instant qu'on soit plus favorable aux républicains ou aux démocrates. La Constitution américaine dit textuellement que ce pouvoir-là revient au président des États-Unis, qui doit ensuite soumettre son choix au Sénat. Donc, c'est littéralement contrevenir à la Constitution américaine que d'agir de la sorte. Mmh. Alors, pour des gens qui se drapent souvent dans le drapeau américain puis dans la Constitution, c'est un peu parler des deux côtés de la bouche.
Bon, on est encore dans une polémique autour du manque de diversité. Cette fois-ci, on parle d'une comédie musicale.
Oui, ben écoute, j'ai trouvé que dans ce cas-là en particulier, il y a une belle leçon à en tirer, je pense, pour tout le monde. On parle de Lin-Manuel Miranda qui vient de porter à l'écran, c'est dans les salles de cinéma, ça a débuté, je pense, l'adaptation d'une comédie musicale qu'il a réalisée avant le grand succès Hamilton. Ça s'appelle In the Heights. Oui. Et dans In the Heights, la comédie musicale et le film, on représente Washington Heights, qui est dans le nord, la partie nord de l'île de Manhattan. Et on veut, dans le film, ça tourne autour de la diversité culturelle, puis des espoirs, puis on expose, finalement, on donne une vitrine à de multiples communautés culturelles vivant ou œuvrant dans ce quartier-là. Et la controverse autour de laquelle on jasait hier et aujourd'hui dans plusieurs médias américains, c'est qu'on pourrait dire, ben, il a toutes les raisons, Lin-Manuel Miranda, d'être fier. Après avoir placé un grand nombre de représentants des communautés culturelles dans Hamilton. Donc, ils se sont comme réappropriés, finalement, l'indépendance des États-Unis, la déclaration d'indépendance. Ben, on dit là, voilà qu'ils portent à l'écran une histoire qui nous montre des gens issus des minorités, leurs rêves, leur potentiel de réussite. Puis, en passant, j'invite les auditeurs à aller voir la bande-annonce. C'est déjà drôlement entraînant et j'ai hâte de pouvoir voir le film. Mais Miranda, au lieu de se réjouir de ça et d'en être fier, il vient de s'excuser. Et c'est pour bien montrer, je voulais en discuter avec toi, pour bien montrer la complexité de la représentation de la diversité raciale aux États-Unis. Quand on regarde la distribution à l'époque de la comédie musicale, puis maintenant du film, écoute, on ne voit que des acteurs qui sont issus des minorités, des gens de couleur, mais Miranda dit c'est pas assez.
Et là, d'abord, mais qu'est-ce qui est assez? Je comprends pas.
Ben voilà,
moi, j'ai pas suivi ce dossier-là assez pour pouvoir avoir une opinion très arrêtée sur la question, mais de la façon dont tu m'en parles, j'ai l'impression qu'on est déjà dans une très grande diversité, mais là, c'est-tu moi qui me trompe?
Non, voilà, le punch s'en vient. Okay. C'est qu'il dit, c'est pas suffisant. Et la question s'est réglée. Ce que j'ai aimé là-dedans, c'est qu'avant que les porte-paroles habituelles ou ceux qui aiment bien mettre le feu au débat s'en emparent, ça s'est réglé entre les représentants de la communauté et Lin-Manuel Miranda et le réalisateur du film, qui est John Shue.
C'est une bonne chose, non?
Oui, voilà. Ce qu'ils ont dit, c'est quelque part, nos connaissances sont imparfaites. Et on a voulu représenter Washington Heights et qu'est-ce qu'ils se reprochent, Miranda, ou qu'est-ce que certains représentants du quartier lui reprochaient? Qu'en fait, tous les acteurs ou les comédiens, qu'ils soient afro-américains ou latinos, ceux qui avaient la peau foncée se retrouvent en arrière-plan parmi les danseurs, alors que tous les rôles ont été accordés, les rôles principaux ont été accordés à des gens dont la peau est plus près du blanc ou plus pâle.
Et tu
le sais probablement toi aussi, mais dans les hiérarchies qu'il y a eu autour de l'esclavage, discrimination, ségrégation, plus on avait la peau foncée, grosso modo, pour faire une histoire courte, plus il y avait de discrimination. Alors, ce que j'ai aimé là-dedans, c'est qu'on n'a pas attendu que ça gonfle, puis que les agitateurs habituels... Voilà, on n'a pas parlé de woke, on n'a pas parlé de suprémaciste blanc, on n'a pas parlé des extrêmes, on n'a pas mis le feu là-dedans.
De racialisme.
Voilà, Miranda a dit, ben écoutez, j'apprends encore, il n'en est pas à ses premières armes, mais grosso modo, j'apprends encore, puis on peut parfaire le travail. Et j'ai trouvé ça très intéressant comme réflexion.
Ben Luc, c'est extraordinaire parce que c'est la preuve qu'on peut se parler, qu'un dialogue est possible et qu'on n'est pas toujours obligé d'en venir au cancel, entre guillemets,
ben écoute,
pour arriver
c'est
à quelque
exactement
chose.
C'est exactement la fin de mon billet de blog sur le sujet.
Bon, tu vois, les grands esprits se rencontrent. Merci beaucoup, à demain.
Bonne fin de journée, bye.